cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Langlang.
Hi, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Parlez un petit peu de français, je vois. Alors, nous sommes à Paris et vous n'êtes pas venu seul, puisque vous êtes ici avec Chopin, avec ses concertos pour piano que vous avez enregistrés avec Zubin Mehta et les Wiener Philharmoniker. Alors, commençons tout simplement par lui. Chopin, dans une lettre, avait dit que Bach est un astronome qui découvre les plus merveilleuses étoiles, Beethoven se mesure à l'univers. Mais moi, je ne cherche qu'à exprimer l'âme et le cœur de l'homme. Alors vous, Langlang, est-ce que vous avez décidé ce qu'était votre univers ? C'est difficile à dire. J'essaie d'explorer différents choix, mais je n'ai pas encore... Disons qu'il y a certains compositeurs dont je me sens particulièrement proche, Chopin, Mozart, Rachmaninoff, par exemple, mais il y en a d'autres pour lesquels je sens des possibilités de développement. Compositeurs comme Bach, Debussy, Beethoven. Donc, j'essaye encore. Alors, ces deux concertos, vous les jouez depuis des années maintenant. Mais quand vous étiez un petit garçon, même presque au début, un jeune homme, comment arriviez-vous à gérer justement les sentiments que Chopin exprimait, qui étaient quand même des sentiments assez adultes, avec, qui impliquaient des sentiments amoureux? Était-ce assez facile pour vous, justement? À l'époque, lorsque j'avais 13 ans, effectivement, c'était très difficile de trouver ces sentiments romantiques. Je n'avais pas vraiment d'expérience dans ce domaine à l'époque. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec Chopin, c'est ce côté très personnel. On peut donc trouver d'autres types de sentiments. Et ça marche également. Et je me souviens, au lieu de penser à l'amour, disons au sens romantique, que je pouvais avoir pour quelqu'un, eh bien, j'adaptais cela à l'amour que j'avais pour ma mère, pour des passages, disons, plus lents. Et ça marchait. À l'époque, ça fonctionnait ainsi. Mais bon, c'est évident qu'aujourd'hui, lorsque je joue ces concertos, c'est différent. Oui, vous avez d'autres sentiments. Oui, j'en ai davantage, oui. J'imagine que c'est intéressant également pour vous de voir comment un concerto comme ça, que vous avez joué plusieurs fois, comment il a évolué justement à travers les années dans votre personnalité musicale, la manière dont vous découvrez, j'imagine, encore des choses nouvelles dans ses œuvres. C'est sûr que je continue de découvrir des choses aujourd'hui, même après l'enregistrement d'ailleurs. Ils sont si riches, il y a différents niveaux d'émotion et de couleurs même dans ces deux œuvres. C'est si fort dans leur façon de toucher le cœur des gens. C'est si sensible. Et, donc le concerto numéro 1 est plus ouvert. Mais en fait, oui, le numéro 2 est en fait le numéro 1. Chopin avait trouvé l'amour pour au moment du 1. Donc c'est assez différent. Donc cette fois, ces concertos, c'était avec Zubin Mehta. Comment vous avez travaillé ensemble pour cette version, pour cet enregistrement? Qu'est-ce que vous avez appris de lui? Qu'est-ce que vous pensez lui avoir apporté? J'ai tant appris de Zubin sur ces concertos. Il les a joués, je ne sais pas, presque des centaines de fois avec Arthur Rubinstein, qui est mon interprète de Chopin préféré de tous les temps. Et j'ai énormément appris sur, par exemple, la technique du rubato. C'est là, vous lui avez vraiment posé des questions vraiment très aussi précises. Ah oui, bien sûr. Il m'a donné de nombreuses idées, des suggestions sur les intentions en fait de Rubinstein. Et ça m'a énormément aidé. J'ai aussi énormément appris de Barenboim, qui était un protégé de Rubinstein. D'ailleurs, chez lui à Berlin, Barenboim a le piano de Rubinstein et de nombreux enregistrements de Rubinstein ont le son de cet instrument qui est beau et chaleureux. Ça donne une bonne idée de comment jouer Chopin. Cette question est valable pour cet album, mais à la rigueur aussi pour vos anciens enregistrements. Vous savez que vous allez enregistrer une œuvre, un concerto, quelle qu'elle soit, comment vous préparez-vous? Est-ce que c'est-à-dire que vous avez tendance à vous replonger dans les enregistrements passés, les enregistrements historiques, d'autres versions de cette œuvre, ou plutôt au contraire, vous avez plutôt tendance à vous isoler, à ne pas du tout écouter les enregistrements historiques? J'avoue que j'aime bien écouter plusieurs enregistrements historiques pour ressentir un peu les différents styles joués jusqu'ici. Mais faut pas non plus trop écouter, juste un peu. Stop, faut s'arrêter. Après, vous devez trouver votre propre chemin. Vous avez d'ailleurs déjà votre propre chemin. Donc, disons qu'il ne faut pas que ces écoutes vous lavent le cerveau au risque de vous transformer en photocopieur. Et alors justement, pour ces deux concertos, j'imagine que vous avez des interprétations préférées. J'aime Rubinstein, évidemment, mais aussi Argerich et Zimmermann. Quel rôle ont joué les albums, les disques dans votre éducation musicale? Quand vous avez commencé le piano, est-ce que vous étiez très proche d'enregistrements historiques? Est-ce que c'était facile en Chine de pouvoir s'en procurer? Au tout début, c'était pas vraiment très facile, effectivement, c'est sûr. Puis dans les années 90, ça s'est amélioré. Déjà, tous les labels ont installé des bureaux en Chine et on a pu trouver des albums, des CD, et aussi, surtout, en fait, des laserdiscs pour regarder sur la télévision. Et c'est vrai que ces laserdiscs m'aidaient énormément. Ça m'a énormément aidé. Vous étiez quoi, un chasseur de disques un peu? Non, en fait, mon père allait à la bibliothèque de l'école et il faisait des copies des laserdiscs et qu'il empruntait, il faisait des copies sur vidéo. Et ça m'a énormément aidé en regardant. Ça m'a beaucoup aidé. On apprend énormément, en fait, sur ces enregistrements historiques. Vous avez parlé de Rubinstein, évidemment, et aussi Horowitz, qui est un de vos pianistes préférés. Comment voyez-vous, comment percevez-vous les deux approches de Chopin, de ces deux ambassadeurs de Chopin, plutôt? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins le Chopin de Rubinstein et dans celui d'Horowitz? Pour Chopin, je préfère Rubinstein plus qu'Horowitz. Horowitz, c'est certes un interprète de Chopin unique, mais pour moi, Rubinstein possédait davantage de chaleur et de lyrisme. Horowitz avait une couleur unique et plus de personnalité, peut-être. C'était plus dynamique, en fait. Mais dans Chopin, Rubinstein sonne si naturel. Il avait comme la stature d'un peintre avec un bon équilibre. Tout est bien équilibré. Il y a une vraie classe. C'est plein d'émotions, énormément d'expression dans le son. C'est si agréable à écouter, et Chopin par Rubinstein. Il y a vraiment un vrai confort. Vous vous asseyez et vous écoutez, et ça réchauffe votre cœur. Il fait sonner le piano comme une voix. Belle et agréable. J'adore la qualité du Chopin de Rubinstein. Mais pour le répertoire russe, je préfère évidemment Horowitz. C'est un vrai feu d'artifice, techniquement, rapide, c'est puissant. Horowitz possédait une technique plus solide. Son son était explosif.
The sound is very explosive in an explosive way, so pieces like Rachmaninoff.
Dans Rachmaninoff, dans Scriabine, et même dans Schumann, la couleur d'Horowitz était vraiment unique. Le talent d'Horowitz est sans limite. Vous ne saviez jamais ce qu'il allait jouer. Et j'adore ça. C'est vrai que vous possédez, d'ailleurs, je crois, un de ses Steinway. En fait, pendant un moment, oui. Son propriétaire me l'avait prêté durant 5 ans, mais non, malheureusement, je ne l'ai plus, non.
Alors,
vous avez mentionné la relation avec Zubin Mehta. Vous avez joué avec un nombre incroyable de grands chefs, Eschenbach, Barenboim, etc. Comment se passe justement chaque rencontre? Évidemment, est unique. C'est une rencontre, certes musicale, mais j'imagine une rencontre humaine. Mais à chaque fois, vous apprenez chaque chose différemment. Comment vous travaillez avec les chefs? Tous ces chefs sont évidemment au sommet. Chahi, Ozawa, Lorraine Mazel. Ils sont tous différents et avec des très très fortes personnalités, aussi bien concernant leur art ou leurs interprétations. Et donc vous devez respecter cela, évidemment. Mais en même temps, vous devez être sincère avec vous-même. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être fermé. Vous devez pouvoir discuter. Car les deux visions, au bout du compte, doivent quand même aller dans une direction unique. Et donc parfois, le chef suit ce que le soliste joue. Ce n'est pas obligatoirement bien. Et parfois, c'est l'inverse. Et ce n'est pas mieux non plus. Il faut trouver le bon équilibre. Mais j'imagine aussi que ça dépend de l'œuvre que vous jouez, qui peut influer dans telle ou telle direction. Dans les concertos de Chopin, justement, l'orchestre a tendance à suivre le piano. Oui, bien sûr, c'est vrai que pour les concertos pour piano de Chopin, le piano est très très fort. C'est vrai que dans ce cas, il est très dominateur. Et c'est pour ça que d'ailleurs que peu de chefs aiment les jouer. Mais Zubin est si spécial, C'est une star, mais en même temps, il est si chaleureux, c'est quelqu'un de normal. Et en même temps, dans ses concertos, il a beaucoup fait justement pour un... Il me supporte, soutenait, il a énormément fait pour mon rubato, pour que je me structure dans ses pièces. Sinon, je pense que mon jeu aurait été, disons, plus instable, un peu comme un bateau en train de tanguer sur l'eau, quoi. Votre relation avec Barenboim est un peu particulière. Vous allez toujours d'ailleurs chez lui, je crois, étudier à Berlin. Oui, j'ai une grande admiration pour sa connaissance et son talent, tout à fait. Ouais, mais je suis aussi très proche d'un autre chef, c'est Eschenbach. Déjà, tout simplement, parce que ça a quand même été le premier à me découvrir quand j'avais 17 ans. Et il m'a toujours beaucoup soutenu. Mais ce que j'adore justement avec Eschenbach, c'est ça. C'est un peu sa capacité à libérer votre âme pour vous exprimer totalement. C'est quelque chose de très important, surtout lorsque vous êtes jeune musicien. Quand on est jeune, on en fait parfois trop. Et parfois, justement, c'est l'inverse. On est trop réservé, surtout si vous avez un vieux prof qui commence à vous dire que vous en faites trop, justement. Mais Eschenbach, il m'a vraiment aidé à laisser s'échapper, à laisser sortir mes sentiments musicaux, à atteindre une vraie personnalité. Et c'est quelque chose d'important pour les jeunes aujourd'hui. On ne peut pas devenir un nouveau je ne sais qui. Quand on est jeune, on a justement parfois tendance à imiter tel ou tel musicien. Et il faut vraiment se trouver soi-même. Et là, Eschenbach m'a énormément aidé, vraiment. Avec Barenboim, lui, il a une telle connaissance, c'est incroyable. Il est très précis, il est intense, et il a une incroyable culture musicale. C'est vraiment impressionnant. Et c'est d'autant plus unique, justement, qu'il a commencé à jouer du piano et à diriger presque en même temps. Et vraiment tôt, quoi. Et je sais pas, il doit avoir maintenant, il est dans la soixantaine. Bon, il a pas 100 ans, c'est pas ce que je veux dire, mais sa culture c'est juste impressionnant, quoi. Franchement, ça m'impressionne beaucoup. Et justement, Barenboim m'a dit une phrase assez intéressante vous concernant. Il a dit: je ne donne pas à l'anglais les bonnes réponses, mais je lui apprends plutôt à se poser les bonnes questions. Oui, c'est totalement vrai, c'est exactement ça. Il a voulu que je devienne indépendant pour l'avenir. Être indépendant dans mon analyse musicale plutôt que de dépendre de tel ou tel mentor. C'est quelque chose de très important. Et l'un des plus grands challenges du musicien, c'est justement cette prise de décision indépendante, unique. Vous devez respecter la partition, mais avec indépendance. Il y a comme un conflit là-dedans, mais évidemment, il est crucial pour l'avenir. Et c'est un apprentissage, cette pensée indépendante.
Thank you.
Barenboim, comme on sait, est un pianiste qui est devenu chef. Est-ce que c'est quelque chose, la direction d'orchestre, c'est quelque chose qui vous tente?
Non,
c'est possible, mais... Mais c'est pas le bon moment. Disons que j'ai tant de choses à apprendre au piano. Oui, je devrais peut-être sans doute apprendre la direction, apprendre à diriger. Mais ça prend aussi énormément de temps. Quoi. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais d'abord, je voudrais vraiment être plus précis au piano, et c'est quand même mon but, quoi.
About your repertoire, you play.
Concernant votre répertoire, vraiment des compositeurs très très différents.
What is your relationship with?
Quelle est votre relation avec la musique d'aujourd'hui, avec les compositeurs vivants, avec la musique contemporaine? Vous travaillez avec certains, mais est-ce que vous êtes tenté d'en faire plus? Ça dépend. En fait, j'ai de bonnes relations avec Tandun, avec qui j'ai travaillé. Et aussi d'autres compositeurs, essentiellement des compositeurs chinois. J'ai aussi travaillé aussi avec quelques compositeurs occidentaux, avec aussi des compositeurs essentiellement américains. Mais c'est pas facile de trouver la bonne œuvre, et c'est un challenge, car la musique contemporaine, elle utilise des concepts. Ils ont utilisé des concepts pour faire de la musique. C'est complètement différent de la période classique. Il n'y a parfois pas de titre. Vous ne savez pas toujours ce que le compositeur veut dire. Une symphonie de Beethoven, il y a le titre qui vous indique ce que Beethoven voulait signifier. Et, on peut le comprendre facilement. Et lorsque les compositeurs contemporains même parlent, ils expriment parfois de grandes idées, uniques, intéressantes, neuves, géniales même. Mais quand vous écoutez la musique, c'est souvent décevant. Ça n'a rien à voir avec ce dont ils parlaient auparavant. Alors, peut-être que je ne comprends pas, que je rate toute cette connaissance. Mais transposer des idées en notes de musique, ça implique vraiment énormément de choses. C'est un peu le challenge qu'on affronte de nos jours avec la musique contemporaine. Et les premières mondiales de nombreuses pièces contemporaines deviennent aussi souvent les dernières. Et dans nombreuses fois. Et il faut changer cela, je pense. Parce que ça signifie peut-être que le compositeur doit travailler davantage. Ou, je ne sais pas, mieux communiquer, mieux expliquer avec les musiciens, avec les solistes. Mais je pense aussi que la musique doit être présente pour que les gens la comprennent. Je veux dire, prenez par exemple un grand compositeur comme Chopin. Voilà, l'auditeur n'a besoin d'aucune culture classique. Il écoute et il comprend. C'est si beau, c'est si émouvant. On comprend immédiatement, on est touché tout de suite. Avec la musique contemporaine, le compositeur doit passer la journée entière à expliquer ce qu'il a voulu faire, et comment il a connecté la musique à son concept. Et il y a eu des époques où, je ne sais pas, prenez Stravinsky, la création de certaines œuvres, le public il pouvait être choqué, déboussolé, ne comprenait pas ce qui se passait, une partie du public. Et évidemment, aujourd'hui, quand on écoute du Stravinsky, ça ne bouscule plus nos oreilles de la même manière. Oui, non, je comprends ce que vous voulez dire, mais la réalité, c'est que si vous écoutez Debussy, il crée une harmonie unique. Pareil pour Stravinsky, Bartok. Aujourd'hui, vous n'écoutez aucune harmonie, juste des successions de... Parfois de notes qui sont des notes seules. Je ne veux pas parler de tous les compositeurs contemporains, mais souvent, c'est une musique qui est quand même conceptuelle avant toute chose. Et c'est un peu un danger. C'est un danger, pas parce qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas, mais c'est juste que cette musique, disons, n'a pas de lien avec, avec la musique, le répertoire classique. Il manque comme une pièce. Les bases ne sont pas là. Et la musique est faite d'harmonie. Les bases ne sont pas là. Maintenant que vous êtes un peu le chef d'orchestre de votre vie, de vos choix musicaux, quand vous vous retournez et que vous regardez un peu votre enfance, quel recul vous avez? Comment vous analysez ça? Évidemment, ça, c'est quelque chose, tout ce qui s'est passé, ce qui a créé la personne que vous êtes aujourd'hui, mais simplement, c'était nécessaire, malheureusement, je dirais. Mais c'était nécessaire. Lorsque vous jouez, vous êtes actif, ce n'est pas si douloureux que ça, mais vous êtes en action. Mais est-ce qu'il y a eu quand même un moment? Peut-être avant d'être vraiment très connu, mais est-ce que vous avez eu comme une peur à la fin de votre éducation musicale, ou est-ce que finalement tout ça a été une longue progression? Comment s'est faite cette évolution, cette transition? Disons, au début de ma carrière, c'est vrai que j'étais pas à l'aise avec cette situation. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. La pression est telle que vous êtes comme accablé, quoi. C'est, vous voyagez sans cesse, ça change votre rythme. Mais il faut digérer finalement tout ça et réussir à entrer dans la réalité, cette nouvelle réalité avec laquelle vous vivez. Et c'est vrai que ça prend du temps. Et physiquement, vous êtes il faut que vous soyez au top à tel moment précis, à 7 heures ou 8 heures précisément, et au top de votre énergie. Et c'est pas si facile avec tous ces voyages. Et en fait, vous arrivez et la lumière s'éteint et il faut que il faut briller immédiatement. C'est assez difficile. Est-ce que ça veut dire, d'une certaine manière, que finalement, cette liberté que vous avez aujourd'hui, vous n'aviez peut-être pas quand... Même la jeunesse que vous n'avez pas eue, vous l'avez aujourd'hui? Oui, c'est vrai que peut-être je me sens plus jeune. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, je joue parfois aux jeux vidéo, ce que je faisais jamais avant. Je prends des vacances, bon, pas beaucoup, mais j'en prends pour voir le monde, je sais pas, pour aller dans des bars, ce que je faisais jamais quand j'étais adolescent. Donc en fait, vous vivez votre vie à l'envers. Non, pas totalement, enfin, ouais, un peu peut-être quand même. Est-ce que vous nous parlez un petit peu de ce projet avec Herbie Hancock? On a joué déjà ensemble Rhapsody in Blue de Gershwin et nous allons... On va faire une tournée ensemble avec des concertos pour piano et justement Rhapsody in Blue de Gershwin. Et il y aura aussi des pièces solo de lui, de moi, collaboration, donc avec des pièces classiques et des pièces jazz. C'est un peu un besoin pour vous justement de jouer avec des gens qui sortent de l'univers du classique, comme Herbie Hancock. Herbie, c'est un maître. J'ai tant appris de lui. C'est un tel honneur de travailler, de jouer avec lui. Quel talent, je le respecte tant. Il faut juste que nous trouvions une façon, disons, intéressante de collaborer. Il faut toujours, de toute façon, quand on collabore avec quelqu'un, qu'il y ait vraiment de la musique, que ça soit... Il faut toujours faire attention à ce genre de collaboration. Prenez quelqu'un comme Alicia Keys, par exemple. Voilà, c'est quelqu'un qui... Elle s'occupe d'une fondation pour des jeunes musiciens classiques. Je pense aussi, par exemple, Norah Jones, la fille de Ravi Shankar. Disons que ce genre de personne, oui, il y a des chances que je joue avec elle. Après, voilà, il faut trouver le bon répertoire. Quand vous rencontrez des gens comme ça, donc vous écoutez leur musique, qu'est-ce que vous écoutez justement en ce moment? Il y a quoi sur votre iPod? Vous achetez beaucoup de CD, vous téléchargez? Avant, oui, mais moi, en fait, récemment. D'ailleurs, j'avais plusieurs iPods, en fait. Mais plus maintenant. Parce que je trouve la qualité de... La qualité est vraiment terrible, quoi. La compression, le son n'est pas aussi bon. Donc c'est vrai que j'utilise plus trop mes iPods. Donc je préfère mettre mon CD dans un ordinateur, dans mon ordinateur, et le son est quand même meilleur. Mais bon, c'est vrai que... voilà, c'est clair que le streaming en ligne, c'est quelque chose de très pratique, c'est évident. Alors justement, vous écoutez beaucoup de choses en dehors du classique. Le mieux, de toute façon, c'est d'allumer MTV. Le meilleur endroit pour savoir ce qu'on entend. Ensuite, vous êtes dans un magasin de disques. Mais bon, vous savez, je ne suis pas vraiment un expert en pop. J'entends des choses. J'en ai entendu en allant justement aux deux dernières cérémonies des Grammy Awards. Et c'est intéressant, j'ai beaucoup appris. Mais justement, qu'est-ce qui vous touche? Quels sont les artistes qui vous intéressent? Rien, il y en a quelques-uns. Si, j'aime bien, je sais pas, certaines chansons de Christina Aguilera, Justin Timberlake, la pop pure. Ça, j'aime bien. J'aime aussi bien le rap. J'adore Kanye West. J'aime beaucoup sa chanson Stronger. J'aimais beaucoup Eminem à l'époque de Dane Miles. Le rock, disons que si c'est trop lourd, c'est trop heavy, j'ai du mal à écouter. Peut-être que c'est mon oreille de musicien classique qui a vraiment du mal avec le rock. Mais sinon, j'écoute aussi beaucoup de la pop, du jazz, de l'opéra. Ce genre de choses, quoi. Alors vos projets, justement, la suite en disque, c'est quoi? Le trio pour piano de Tchaïkovski. Et ensuite, ma collaboration suivante sur disque, ça sera un duo avec Cecilia Bartoli. Et ça, j'avoue que c'est un peu un disque de rêve. C'est tellement talentueuse. Merci beaucoup.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.